Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Some Reddit users believe they have uncovered a secret group of mercenaries that will do any job for the right price, including VIP escorts, drug smuggling, and murder.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
J'aurais cru que l'analyse du code source d'un site web aurait pu déclencher une des enquêtes les plus mystérieuses de l'ère numérique?
C'est le cas du site web Lake City Quiet Pills, le plus grand mystère de Reddit, qui suscite des discussions depuis plus de 7 ans.
S'agit-il d'un coup de marketing bien ficelé, ou s'agit-il plutôt d'un réseau obscur de mercenaires assassins?
Arrêtez tout ce que vous faites et rejoignez notre enquête, car l'histoire d'aujourd'hui demeure toujours sans réponse.
Salut Émile, comment ça va aujourd'hui?
Salut Seb, ça va très bien. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment spectaculaire. J'ai adoré me plonger dans toutes les discussions sur Reddit et sur les autres forums pour tenter d'aller au bout de l'histoire de Lake City Quiet Pills. Mais encore, j'ai l'impression que c'est sans fin. Il y a tellement de différentes avenues, il y a tellement de théories que j'espère qu'on va clarifier la chose un peu ce soir.
Notre bureau d'enquête a fait le travail.
Exactement. Et pour passer au travers tout ça, parce qu'il y a beaucoup de posts, il y a beaucoup d'histoires sur Reddit, on a fait beaucoup de lectures. Pour nous aider, aujourd'hui, on boit la Optimus qui est fournie par la Maison des Bières, donc à lamaisondesbières.ca. Vous pouvez aller voir tout l'excellent choix de bières qu'ils ont à cette boutique-là qui est au coin de Mont-Royal de la Nodière. Et la Optimus, en fait, c'est une bière qui est brassée spécialement pour eux par Benelux qui font des très bonnes bières depuis plusieurs années. Et puis, ils ont brassé cette exclusivité pour la Maison des Bières. C'est une primeur qu'on a pour vous ce soir, guys. Donc, la Optimus, c'est une double IPA à 8,2% d'alcool. C'est quand même une bière forte, très houblonnée, puis en même temps rafraîchissante avec un petit, on dirait, un petit arrière-goût là, d'agrumes.
Oui, exactement. Elle est quand même douce. Elle passe bien pour une double IPA. C'est pas la plus rude, si on veut, en bouche. Là. Elle est vraiment rafraîchissante.
Et aussi, on a des belles reviews 5 étoiles cette semaine. Seb, je pense qu'on a un shout-out à donner encore une fois.
Oui, un shout-out à Simon Predge qui nous dit « Fascinant, deux gars charismatiques qui connaissent bien leur sujet, professionnels et divertissants. » Mais aussi, mais aussi très angoissant. Merci Simon, ça nous fait vraiment chaud au cœur de ton soutien.
Et by the way, Simon est l'animateur d'un excellent podcast qui se nomme Ars Moriendi, que je vous conseille d'aller vous abonner tout de suite. Si vous aimez Distorsion, c'est sûr que vous allez aimer Ars Moriendi. C'est un peu notre cousin de sujet, si on veut. Lui, il explore des histoires de tueurs en série reconnus, des histoires historiques toujours aussi sordides et il fait un super travail avec de la musique originale, des comédiens aussi qui vont personnaliser les
enseignes.
Exactement. Et c'est un podcast aussi disponible sur Choc FM. Lake City Quiet Pills, Seb, est-ce que tu avais entendu parler de ça avant qu'on commence à se plonger dans le sujet?
Aucunement, sincèrement. J'avais jamais entendu parler du sujet. J'avais même jamais vu quoi que ce soit. Pourtant, je passe beaucoup de temps sur Reddit. J'avais pas creusé aussi profond, j'ai l'impression, dans les histoires mystérieuses. Toi, est-ce que tu connaissais ça ou
En fait, c'est le sujet de ce soir, c'est une suggestion de Aaron de Generation Y. Si vous aimez les podcasts de mystère et des podcasts de true crime, Generation Y, c'est vraiment la référence dans le sujet. Un podcast qui dure depuis des années. Les deux, Justin et Aaron, c'est les meilleurs. Et puis, on est en train de vous concocter une collaboration. Donc, à venir prochainement avec les gars de Generation Y, ça va être très intéressant. Et quand on a parlé à Aaron tout récemment, il nous a dit « Les gars, avez-vous entendu parler de Lake City Quiet Pills? » Et là, on savait pas trop quoi dire. Puis, il nous expliquait un peu c'était quoi le concept derrière ça. Lui, ça tombe un peu moins dans les cordes de Generation Y, mais pour Distorsion, c'est un sujet qui est tout à fait taillé sur mesure pour nous. On va prendre notre temps ce soir parce que c'est un sujet c'est une histoire qui s'est décrite vraiment sur Reddit au travers plusieurs posts. En gros, des gens ont découvert dans les environs de 2009 qu'un certain site nommé LakeCityQuietPills.com pourrait être un site d'offre d'emploi de mercenaires assassins. C'est en suivant justement des traces de discussions sur Reddit beaucoup et aussi sur divers forums que des gens en ont venu à croire ça. Donc, on va vous prendre par la main ce soir, on va faire le tour, on va remonter aux posts originaux, donc aux premières discussions qui ont eu lieu sur le sujet, de où c'est parti ce truc-là, parce que c'est parti de la mort d'un contributeur sur Reddit qui se nomme Religion of Peace, qui était bien connu pour des bonnes et des mauvaises raisons, et puis à partir du moment où sa mort a été annoncée, c'est là que Reddit a mené l'enquête et que les gens ont commencé à suspecter des choses par rapport à un site auquel ce gars-là, Religion of Peace, était lié. Donc, c'est une histoire vraiment où on passe d'une discussion à l'autre. Moi, j'avais, je pense, 50 onglets ouverts lorsque je faisais de la recherche.
C'est assez ardu, cette recherche-là, effectivement. Ça a été beaucoup de travail.
Ah oui, mais c'est très intéressant de suivre le déroulement de tout ça, puis justement comment on en est venu à arriver à un des mystères les plus grands, les plus étranges, il est plus fascinant, je dirais, de l'ère numérique, parce qu'il n'y a pas de page Wikipédia sur Lake City Quiet Pills, il n'y a pas de documentaires qui ont été faits.
Il a été très très peu adressé par des médias mondiaux, là, tant américains qu'européens. Il n'y a pas de traces vraiment de cette histoire-là, qui a pourtant quand même, si on veut, des faits, des faits qui existent, ou du moins qu'on peut faire des corrélations en arrivant à des théories. C'est bourré de mystères. Il y a absolument personne qui en parle. Je me demande quand même pourquoi. Je pense pas que l'armée américaine ou quoi que ce soit ait une mainmise, ou les entités gouvernementales aient une mainmise là-dessus. Mais bref, restez à l'écoute pour avoir des détails croustillants.
Seb, est-ce qu'on est prêt à plonger dans le sujet plus sérieusement?
Oui, monsieur.
Allons-y. On se replonge en 2009. Le début des années 2010, c'était un peu des années charnières pour tout ce qui est réseaux sociaux et informations sur le web. On cherchait un peu, j'ai l'impression, on cherchait un peu à définir le concept de vie privée. Mm-hmm. C'était le début des réseaux sociaux, donc on partageait beaucoup de choses. C'était un peu le début de la génération selfie, si on veut. Et c'est là que Reddit a vraiment connu sa croissance principale. Seb, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'est Reddit? Parce qu'on va en parler beaucoup ce soir.
Reddit, en fait, juste pour commencer, leur tagline, c'est « the home page of the Internet ».
Oui.
C'est un site qui existe depuis 2005. Son objectif, en fait, c'est un peu un réseau social. Les gens s'enregistrent et publient des liens qu'ils trouvent pertinents. Et la communauté, elle vote ou non si ces liens-là sont pertinents ou agréables. Et donc, au fil du temps, ça vient que la page d'accueil de Reddit devient un peu tout ce qui est tendance sur le web ou apprécié par les internautes. Ça, c'était le début. Parce qu'en 2005 jusqu'à 2010, je sais pas si vous vous souvenez du site dig.com.
Oui.
Qui était un peu le même principe, là. Les gens soumettaient des liens et on votait si c'était un lien pertinent ou non. Mais en 2010, ils commençaient à subir beaucoup de pertes. Dig avait beaucoup moins de popularité. Ça allait un petit peu nulle part. Avec l'ascension de Facebook aussi, on dirait que ça attirait du trafic autre que sur Dig. Donc Reddit a pris beaucoup de place, mais au début Reddit c'était très encore une fois comme Craigslist, c'était mm-hmm. très orienté technologie. C'est un peu toujours les geeks hein, qui sont les early adopters, les gens qui
les précurseurs.
Les précurseurs. Donc c'est normal qu'eux ils parlent des sujets qui les intéressent, mais au fil du temps Reddit s'est vraiment développé. Il y a des subreddits en fait, il y a des sous-catégories. On parle de tout. De tout. Ce n'est plus seulement que d'envoyer des hyperliens. C'est un peu un forum de discussion qui amène à toutes sortes, justement, d'enquêtes et de cas troublants. Il y a vraiment de tout sur Reddit. C'est fascinant. Et les chiffres qui sont sortis, c'est le 8e site le plus populaire au monde.
Oh, quand même.
Pour un site de que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui connaît Reddit. Ça m'impressionne énormément.
On fait pas n'importe quoi sur Reddit, faut quand même lire la Reddiquette qu'on appelle.
Ouais, exact.
Comme tu l'indiques, ça, il y a vraiment le concept de upvote, downvote. Mm-hmm. Donc, un sujet peut se retrouver sur la première page assez rapidement, que ce soit une nouvelle internationale ou un meme ou une vidéo de chat.
Ouais,
tu sais.
Exact.
Donc, tout est possible. Reddit est un peu capable du pire comme du meilleur. Dans mon domaine à moi, je travaille dans les jeux vidéo. Reddit joue un rôle majeur au niveau de la discussion. Il y a énormément mm-hmm. de gamers qui se retrouvent là-dessus.
Bien sûr.
Reddit a eu plusieurs controverses. On va en parler un petit peu plus tard suite à certaines sous-catégories qui étaient peut-être un peu trop libertins. Donc il y a eu des problèmes de pornographie juvénile, ouais. par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un peu capable du pire et du meilleur. C'est un peu là où on va retrouver des gens hyper pertinents qui vont passer énormément de temps à analyser un sujet par exemple et d'écrire via des longs posts. Mm-hmm. Et c'est là aussi qu'on va retrouver un peu la racaille du web qui va se laisser aller sans respect et sans pudeur, si je peux me permettre.
Parce que contrairement à Facebook, Reddit, le username est toujours autorisé. Donc, c'est pas vraiment votre véritable identité que vous exposez. Donc, on le sait, ça permet, disons, de s'exprimer plus librement et de manière anonyme.
C'est vrai. Il y a une notion d'anonymité qui est très présente sur Reddit. Ça se veut un peu comme les eaux internationales d'Internet, mais ça change aussi parce que maintenant, les années 2010, c'était vraiment une année où je crois qu'on définissait ce qui est la vie privée et tout ça. Ouais. Maintenant, on a vu des subreddits qui ont été fermés, par exemple, parce qu'il y a eu des plaintes. Même le gouvernement a demandé la fermeture de certains endroits de discussion. Donc, c'est plus nécessairement un lieu d'ultime liberté comme ça l'a déjà été. Dans le cas d'aujourd'hui, on se plonge vraiment, on remonte il y a 8 ans, en juillet 2009, il y a un utilisateur Reddit qui se nomme 26, donc 2 traits d'union 6, qui démarre un sujet sur Reddit, et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il mentionne que l'utilisateur nommé Religion of Peace est maintenant mort à l'âge de 79 ans. Son surnom était aussi Milo. Il aurait été retrouvé mort par 26, donc par cet utilisateur-là, devant son ordinateur, devant Reddit. Et c'est un homme qui semblait détenir un certain background militaire. On va y revenir plus tard, mais c'est un peu comme ça que tout a commencé, via ce post-là. Donc cet utilisateur-là, 26, qui n'a pas une grande historique sur Reddit, je crois qu'il avait fait juste quelques posts, mm-hmm. quelques commentaires, il annonce la mort de Religion of Peace. Et c'est là que tout a commencé pour l'histoire de Lake City Quiet Pills. Ça commence par ce post-là. On nous dit que Milo avait une réputation de vieux grincheux qui ne tolérait personne sauf son bon ami 26. Celui-ci était reconnaissant envers Milo car apparemment que Milo aurait organisé son premier gig en dehors de l'armée. Donc on se rend compte que c'est des gens qui semblent être près du domaine militaire. Milo ne voulait pas vraiment de cérémonie, il désirait être incinéré et il avait souhaité que ses cendres soient répandues près de sa vieille ferme. Son matériel informatique a été légué aux vétérans du Vietnam et ses livres et son vieux chat un peu mal en point a été légué à la fille d'un voisin. Apparemment que là où Milo habitait, donc sur sa vieille ferme, maintenant il y aurait un centre d'achat et c'est là que Tousix serait allé répandre ses cendres selon son post. Donc c'est comme ça que cette enquête-là commence. Mm-hmm. C'est un post un peu bidon. Ben c'est pas bidon, c'est la mort de quelqu'un. Ouais. Mais c'est un commentaire qui a l'air de rien, qui ne suscite pas vraiment de mystère, si on veut.
Puis, je veux dire, la communauté Reddit, c'est peut-être une communauté serrée, mais on connaît pas tout le monde qui annonce la mort de quelqu'un sur Reddit. Fait que c'est vrai que ça passe un peu sans plus, là.
Religion of Peace semblait quand même être un utilisateur assez actif. On se rend compte qu'il était très présent, qu'il discutait beaucoup sur Reddit. Il est âgé de 79 ans, comme on l'a mentionné. Il semble être très doué avec les technologies pour son âge. On se rappelle qu'à 79 ans, quand même, on l'a vu faire des posts sur Reddit où il faisait presque du soutien technique de certains logiciels sur PC, il répondait aux gens, il donnait des trucs. Je lisais ça un peu, je faisais l'historique des différentes discussions auxquelles il a pris part, puis par exemple, il semblait vraiment connaître le milieu des programmeurs, la qualification des programmeurs d'un peu partout dans le monde. Il fait un commentaire à un certain moment donné où il indique que les programmeurs qui arrivent du Moyen-Orient sont très doués, sont pas éduqués de la même façon que les programmeurs nord-américains. Il semblait vraiment avoir une connaissance assez poussée du domaine des technologies. Il est actif sur plusieurs subs, comme je l'ai dit. Un de ceux-là, c'est WTF, donc What the Fuck, sur lequel il est, qui est un peu un site de trucs...
Un truc de
douteux. Ouais, où on trouve un peu de tout.
Justement, dans ce sous-canal-là, il y a une interdiction de aucune image. Justement, sinon, il y a une violation d'être banni du site de Reddit pendant 7 jours. Et tu vois, c'est très, très explicite. Donc, d'après moi, ils ont eu beaucoup de problèmes.
Donc, à ce moment-là, suivant ce post où on annonce la mort de Religion of Peace, alias Milo, les gens commencent vraiment à s'intéresser à c'était qui cet homme-là. Et là, toutes ces traces qu'il a laissées en ligne vont être analysés par les gens sur Reddit. On se rend compte que, bon, à certaines fois, à certains moments, il faisait des allusions aux femmes en général. Une des citations qu'il a dit que j'ai trouvé très bonne, c'est « Une des choses positives de la vieillesse, c'est qu'à mon âge, à 79 ans, toutes les femmes sont plus jeunes. » Donc, il semblait bien aimer les jeunes femmes. Il semble plutôt sensible, très humoristique, mais aussi très acide. Milo, ou Religion of Peace, appelons-le Milo peut-être. Milo, il nous explique que lui, il aurait été engagé dans l'armée à l'âge de 14 ans pour aller combattre les nazis. Il était un apprenti dans l'armée navale l'année du débarquement en Normandie, en fait. Il aurait connu des conditions misérables au combat. Il aurait fait le voyage de New York jusqu'en France sur un bateau. Puis, une fois arrivé en France, il aurait été renvoyé car il est trop jeune, 14 ans, pour être dans l'armée à cette époque-là. On voyait qu'on n'avait pas les mêmes contrôles qu'aujourd'hui. Il aurait connu les années folles des années 60. Il semblait bien aimer la marijuana. Il semblerait qu'il en aurait consommé un peu partout sur la planète alors qu'il voyageait en service militaire dans un de ses postes. Il en parlait très en détail. Mais on se rend compte aussi que il y avait un petit côté sombre dans la vie de Milo. Et à certains moments, on peut se rendre compte qu'il semblait presque un peu trop connaître le domaine militaire. Un des posts qu'il fait, en fait, c'est encore une fois sur le board WTF. C'est quelqu'un qui lance un appel pour démystifier le fait « Est-il possible de trancher la tête de quelqu'un avec une corde de piano ?» Donc, le type en question, il demande « Hey, ça serait bien de démystifier ce mythe-là avant que quelqu'un le laissait à la maison pour se suicider. » Et c'est là que Religion of Peace, Milo, va répondre qu'une corde de piano, c'est très difficile de la faire passer au travers le cou de quelqu'un. Le mieux qu'une personne forte peut faire, c'est... bon, là, je vous passe les détails, mais il explique un peu comment...
Comment passer à l'acte avec une corde de piano.
Exactement. Lui, il explique qu'il l'a déjà fait avec des cordes de guitare. Donc, il a vraiment une expérience dans ce domaine-là, dans le tranchage de tête à l'aide d'objets divers. Et puis là, c'est là qu'on commence à se rendre compte que, OK, ouais, il semblerait que soit ce gars-là a beaucoup d'imagination, puis il se crée une personnalité en ligne qui va aux extrêmes, ou soit il y a véritablement un background militaire et il y a vraiment... tuer des gens pour vrai. On se rend compte aussi en fouillant un peu plus creux dans la vie de Religion of Peace, alias Milo, qui était modérateur du subreddit Jailbait, qui est un channel qui a connu beaucoup de controverses au début des années 2010.
Le Jailbait, en fait, qui est un appât à prison,
oui,
contenait beaucoup de trucs qui étaient à la limite de la légalité, là. Donc, on s'entend des photos d'enfants mineurs et toutes sortes de trucs comme ça. Et il y a eu un reportage d'Anderson Cooper en 2011 qui a un peu soulevé la connaissance, si vous voulez, au grand public de l'existence de ce canal-là sur Reddit, et il a été fermé.
On a vu par la suite qu'il y a plusieurs autres channels qui sont réouverts suite à la fermeture de Jailbait, mais ça avait fait quand même une grosse controverse. Ça avait soulevé le débat, surtout aux États-Unis, sur, encore une fois, qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui est permis d'échanger sous le couvert de l'anonymat sur Internet. Donc, Religion of Peace était modérateur de ce channel-là. Déjà, ça met la puce à l'oreille. Les gens se disent « OK, ben, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté sombre un peu plus développé qu'on le pense. »
Oui, parce que pour être modérateur de ça, faut accepter et quand même endosser d'une certaine manière le contenu qui est
absolument
là. Donc, tu le vois tout, le contenu. Et c'est même toi qui décides si le contenu est valide, entre guillemets, ou non, pour ça. Donc, c'est un peu le rôle d'un modérateur, justement.
Et puis, on se rend compte en fouillant aussi que Religion of Peace était propriétaire d'un site qui se nomme « That Old Guy's Image Host ». Qu'il utilisait justement pour qui est un peu un site d'hébergement d'images comme Imager ou comme plusieurs
Flickr ou quoi que ce
soit. Oui, exactement. Et puis lui avait créé son propre site. Je présume que il voyait un peu l'opportunité de faire du trafic de créer du trafic, je veux dire pas du
non mais générer des visites sur son site.
Exactement, des visites sur son site au lieu de le diriger vers une plateforme plus connue. Quelqu'un se rend compte à un certain moment que lorsqu'on va sur ce site-là, That Old Guy's Image Host, c'est un endroit où moi je suis allé, le site est fermé maintenant, mais pour les besoins de la cause, pour faire la recherche pour Distorsion, j'ai utilisé la Wayback Machine, donc les archives internet que vous pouvez aller utiliser vous aussi, qui est complètement gratuit.
Oui.
Pour nous, c'est un outil hyper intéressant quand on mène des enquêtes comme ça. Donc je suis allé un peu explorer, puis ça m'a ramené vraiment je crois que le site a été créé en 2004. On commence à voir des trucs un peu plus sérieux, là, 2008-2009. Puis, c'est surtout des images... ce que j'ai vu, je dirais que c'est surtout de la pornographie légère, je dirais, là, un peu de la pornographie old school. Mm-hmm. Mais il y a des choses vraiment plus extrêmes qu'on voit sur ce site-là. C'est pas tout beau. Il y a certainement des mineurs, il y a certainement des gens dans des drôles de positions. Et puis, lorsque les gens sur Reddit ont commencé à enquêter sur ce site-là, ils se sont rendus compte que le nom de domaine, l'adresse en fait de That Old Guy's Image Host, correspondait à lakecityquietpills.com.
C'est là que ça a piqué la curiosité d'un des membres de Reddit et qui s'est mis à analyser le code source, parce qu'il y a un peu sur Reddit aussi, il y a une culture des source code junkies, en fait, des amateurs de source code, de code source. On s'entend, faut être passionné par ça pour faire ça. Et ces gens-là, le user qui s'appelait, qui s'appelle Zaza Kokwan, si on veut.
Ouais.
Il s'est mis à regarder le code source. Et à l'intérieur du code source, juste pour vous expliquer c'est quoi un code source d'une page web. En fait, une page web, votre navigateur interprète, si vous voulez, un paquet de caractères, et donc c'est le code source, c'est des instructions qu'on donne au navigateur pour afficher un site web, une image, les comportements et tout ça. Mais à l'intérieur du code source en tant que tel, il y a toujours une possibilité pour les programmeurs, les développeurs, d'y intégrer des commentaires. Donc, des commentaires, c'est des espaces qui sont plus pour les développeurs, où c'est pas quelque chose qui va être affiché à l'écran ou qui va être utile ou même interprété par le navigateur. Il s'est rendu compte, ce user-là, qu'il y avait un commentaire qui avait l'air d'une offre d'emploi qui était quand même assez particulière.
Oui, généralement, quand on regarde un code source d'une page ou qu'on inspecte en utilisant Chrome ou Explorer, qu'on inspecte une page, mais on va voir des détails sur la taille des images.
Ah oui, le CSS, la feuille de style.
Exactement, tout ça. Mais dans le cas de Lake City Quiet Pills, il y a vraiment des vrais messages qui sont inclus dans le code source avec des phrases complètes. C'est tout daté. Et puis, c'est un peu troublant quand on commence à regarder ça. Je peux peut-être vous lire l'introduction d'un post qui date du 17 juillet 2009. Puis après, Seb, on va décortiquer un peu tout ce qui se passe dans ce post-là parce que c'est vraiment là dont l'origine du mystère est apparue. Donc, le 17 juillet 2009, je vous lis ça en anglais. on revient un peu sur la mort de Milo. I am sorry to tell you that old Milo died yesterday. He went quiet and calm, not like we all figured. I gave that fat mangy cat of his to the little girl next door. No services or nothing, you know Milo. I'm taking his ashes back to where his old farm was, close to it anyway. There's a mall where his place was. So hoist a few for the old man, remember what he said, keep the faith with the man who's got your back. Donc ici, ce texte-là nous rappelle un peu le premier texte qui avait été posté sur Reddit par 2-6. Dans ce cas-ci, il explique que justement, bon, Milo est mort hier, il est mort en paix. Justement, j'ai donné son chat à la petite voisine, il veut pas de service, rien. Il veut rester dans la discrétion, je suis allé mettre ses cendres où sa vieille ferme était située. Bon, on revient un peu là-dessus. Ce qu'on retrouve un peu plus bas de ce même post-là, et c'est là que c'est un peu plus troublant, ça semble être des offres d'emploi, mais pour des services de militaires ou des services de protection assez louches. Ça semble encodé, il y a des choses qui... Il y a un certain jargon militaire qui est utilisé. Je pense qu'on peut faire le tour de ces offres d'emploi-là. Seb, si tu veux nous la lire, après, on peut peut-être l'analyser.
La première, parce qu'en fait, il y a l'air d'avoir différentes, une liste de 7-8 offres. Et la première, immediate need, 8 to 10 Chinese, Korean, fluent, Korean dialect accent, details after contact, 12 weeks, half pay, sequester on refusal.
On dit bon que c'est un besoin immédiat, on cherche de 8 à 10 chinois ou coréens qui sont fluides en fait en coréen dans certains dialectes. Détail après le contrat, on parle de 12 semaines à demi-pay, ouais. Half pay si on veut, et sequester on refusal. Et ça met un peu la puce à l'oreille. Seb, si tu peux nous lire la deuxième offre d'emploi, peut-être qu'on va avoir plus de détails.
4-4, 24 hours, DP, 2-week gig. Fluent English, 2-week sequester.
Ici, donc, on recherche quelqu'un 24-7, donc quelqu'un qui est disponible toute la semaine, jour et nuit. C'est une gig de 2 semaines, donc un contrat de 2 semaines, quelqu'un qui est fluide en anglais et 2 semaines de séquestration.
Oui, je me demande ce qu'il voulait dire par là. Je trouve ça vraiment étrange. Ensuite, 4 English-French private security on cruise must be bondable.
Donc ici, on cherche encore 4 personnes, français ou anglais. On parle de sécurité privée sur un bateau. Est-ce qu'on peut voir la prochaine offre d'emploi, Seb?
Immediate need. 12 SA, Spanish speaking. No papers required. No records keeps. 4-week paid sequester if refused.
Encore un besoin immédiat. On cherche 12 SA. Moi, je pense que c'est pour South American. Mm. South American, Spanish speaking. No papers required, donc pas besoin d'avoir de pièces d'identité. On parle de 4 semaines de séquestration payée si on refuse. Donc là, on commence à avoir un peu plus un pattern. Moi, ce que j'ai l'impression, ce qu'on nous dit, ce qui pique la curiosité, c'est surtout la séquestration. C'est quoi ça, la séquestration, en fait? Mais c'est que j'ai l'impression que quelqu'un qui souhaite postuler à cette offre d'emploi, s'il refuse pour, par exemple, des raisons éthiques ou « je peux pas faire ce travail-là », ben cette personne-là doit être séquestrée pendant un certain nombre de semaines pour être sûre qu'elle va pas...
dévoiler de l'information.
Exactement. Ce qui nous rend compte que, OK, ils font des jobs, ça semble être des jobs de sécurité, mais assez importantes, là, ou même peut-être même des assassinats si on doit te séquestrer si tu refuses. Donc, si tu refuses le contrat, t'es payé quand même. Les détails qu'on dit, des fois, c'est un demi-salaire. Parfois, c'est le full salaire. Et tu vas être séquestré pendant un certain nombre de semaines.
Ils ont des besoins assez pointus quand même en nationalité. C'est vraiment particulier. Puis chaque début d'offre, si on veut, ça commence toujours par « filed XXXXX spec ». 2 points. Donc, il n'y a pas de nomenclature. On dirait qu'il y a un espace à la nomenclature du type de fichier, mais elle n'est pas indiquée. Elle est par des XXX. Ça doit être sûrement pour se repérer seulement. Mais c'est quand même assez particulier.
Il y a d'autres offres. On va en passer quelques-unes. Dans un certain cas, on nous dit qu'on a besoin de 3 personnes, soit encore une fois chinois ou coréen, fluides dans ces deux langues-là. Les détails après contact, une séquestration de 6 semaines. Dans un autre offre d'emploi, en fait, on indique qu'on a besoin de 2 English speakers, donc 2 personnes qui parlent anglais. Et là, on nous dit private sec at sea. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être séquestration sur la mer, si on veut. Là, on dit HW exp, a must. Donc, peut-être que, selon moi, c'est peut-être high water.
Ah oui.
Ouais, HW. Ça, ouais. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience en haute mer. Mm-hmm. Et là, on dit recent S or SBS preferred. Donc, dans ce cas-ci, S référait à SEALs. Donc, un membre de l'armée navale. Puis, SBS, ce serait les Special Boat Service de l'armée britannique. Pour cette mission-là, on nous dit qu'on cherche 2 personnes qui parlent anglais, soit qu'ils ont l'expérience en tant que SEALs ou des forces navales britanniques, et quelqu'un qui a de l'expérience en haute mer. Donc, on parle de gros trucs ici. Là. On parle pas d'aller protéger la femme d'un diplomate. Là.
Non, exact. Et à la fin, ça termine. Et là, on nous introduit une nouvelle personne dans l'histoire. Shade is maintaining the calendar and access to the file dump.
Est Shade, ouais.
Ouais, ben on le sait pas encore. Et il y a une autre personne qui s'introduit. Angel has the job posting for EU and Asia. We aren't sending anyone to me. No one, don't ask for listing.
Et là, ce qu'on comprend, c'est Angel, il s'occupe des offres d'emploi pour EU, c'est Europe, je présume, et l'Asie. Et on n'envoie personne au ME. Quand tu as dit « me », selon moi, c'est « Middle East ».
Ah oui, effectivement.
Donc, eux, ils veulent envoyer personne en Moyen-Orient. « Don't ask for listings ». Donc, comme si cette région-là était barrée pour leur opération à eux.
Mais qui gérait, je me demande, qui a rédigé cette annonce-là? Parce que là, c'est pas Milo, c'est sûrement pas Two-Six. On ne sait pas vraiment, en fait, qui a rédigé ce commentaire-là. C'est quand même assez nébuleux. Puis, l'autre point, pour avoir des besoins si spécifiques que ça, on s'entend, là, c'est assez de niche comme expertise. Faut que t'aies quand même un gros réseau pour essayer d'aller chercher cette expertise-là. Et je me dis même que si la demande, c'est qu'elle existe aussi.
Oui.
Donc, je me demande dans la vie qui fait que tu arrives à gagner ta vie avec des contrats comme ça. Généralement, c'est seulement que dans les films qu'on voit des trucs comme ça.
Oui, exactement. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que on y arrivera un peu plus tard dans les théories. Mais j'ai l'impression, comme tu dis, qu'ils sont très nombreux, que c'est pas juste 7-8 personnes, parce que là, ils en engagent 10 pour aller en Chine. En même temps, ils en engagent 5 autres pour aller en Corée ou même ailleurs, des missions sur des bateaux. Donc, comme tu dis, ils sont certainement plutôt nombreux. Et là, les gens commencent vraiment à se dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On se rappelle qu'on est parti de la mort de Religion of Peace. On est arrivé à That Old Man's Image Host, qui est un site de hosting pour des images pornographiques. Et là, on se retrouve que tout ça est lié à des offres d'emploi d'assassins ou de mercenaires. Donc, c'est assez intriguant. Et c'est là que les gens commencent à enquêter encore plus et à faire des recherches un peu plus profondément sur le code source de Lake City Quiet Pills. 4 mois plus tard, dans un anglais mal écrit, sûrement volontairement, on y apprend que les procédures autour de la mort de Milo sont terminées et que le gars était plutôt en bon moyen financier.
C'était daté du 14 novembre 2009. Milo's will clear probate. Surprise! Milo was loaded. Et je vous dis ça, mais c'est vraiment, il manque toujours des lettres, l'orthographe.
Oui, c'est très mal écrit.
Très mauvais, là. Email Shade if we... Donc, Shade qui revient. Email Shade if we sent you out in 2005 and 2009. Shade will have checks cut for you. Amount it by how many times, not by pay total. Small share is 3-4K.
Donc ici, on semble apprendre que justement, Milo avait des bons... est décédé, puis il a laissé un bon héritage derrière lui. Et il semblerait que, justement, ce qu'il dit, c'est que si Milo vous a envoyé en mission entre 2005 et 2009, il va avoir des chèques pour vous, en fait. Potentiellement que Milo a laissé une partie de sa fortune à tous ces mercenaires-là qui sont dans le groupe de Lake City Quiet Pills. Deux mois plus tard, en janvier 2010, un nouveau message refait surface dans le code source. Seb, si t'es game de nous lire ça.
Happy New Year, everyone. We're having a birthday party for the old man on the 19th party starts at 15 o'clock at the usual. Send your RSVP to Shade. For your information, we're booking a room for 3 days for anyone coming from out of area and overnight for locals. Come hoist one for Dutch Milo.
Donc, il semblerait avoir une fête. Ce qu'on nous dit ici, c'est que ils vont célébrer Milo le 19 janvier parce que ce message-là date du 12 janvier. Le party commence à 3h p.m., à 15h, comme d'habitude. Envoyez votre réservation à Shade. On va même booker des chambres pour 3 jours pour ceux qui viennent en dehors de la région. Et voilà, venez célébrer le vieux Milo. Donc, il semble avoir quand même un certain budget. On fait une fête pour Milo pendant 3 jours. On sait pas trop où est-ce que ça se déroule. Par la suite, le 18 janvier, donc potentiellement la veille de cette grande fête, il y a un autre message qui apparaît dans le code source de Lake City Quiet Pills.
Le 18 janvier 2010, we got 38 rooms in the Marriott on 46. Shade has the key cards for locals. Pick up at the party, give your travel name to the desk, and that's it. No ID needed since we're covering the bill. Keep the room service under 500, okay? The phones, they are not secure. Bus from the hotel leave at 1:30 p.m. Car service voucher for return trip when you're ready to crash. Don't DUI. Don't drive under influence.
Exactement. Et ce poste-là est quand même assez important. Quand on commence à creuser un peu, on se rend compte que, le party, c'est demain. Il y a un bus qui va vous amener à ce lieu-là. Donc, le party n'est pas au Marriott. On donne potentiellement des indications. On parle de 38 chambres. C'est quand même beaucoup, 38 chambres.
Sur les 46, c'est pratiquement le 3/4 de l'hôtel.
Exactement. Mais l'indication du 46, en fait, on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. C'est là que Reddit commence à spéculer en disant, en fait, sur le 46, ça peut être la Highway 46 qui passe au travers la Pennsylvanie, entre autres, ou ça peut être la rue 46, ou ça peut être l'avenue 46, ou des choses comme ça. Ce message-là va vraiment intriguer les gens sur Reddit parce que à un certain moment, 2-6, qui avait posté la mort de Milo plus tôt, a aussi posté dans une autre conversation des coordonnées GPS de là où il aurait versé les cendres de Milo. Et ces coordonnées-là arrivent dans une petite ville de la Pennsylvanie. Et là, en fait, les gens sur Reddit commencent à enquêter, à se dire, OK, selon l'âge de Milo, il a 79 ans, il vient de la Pennsylvanie, il serait potentiellement né en 1930. Est-ce qu'il y a eu une vague d'émigration? On l'appelle Dutch Milo, donc peut-être qu'il vient des Pays-Bas, peut-être qu'il vient d'Allemagne, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une vague d'immigrants au début du siècle qui correspondrait à toute cette description-là? Il semblerait que oui, il y aurait une vague d'immigrants qui seraient arrivés en Pennsylvanie au début du siècle. Il y aurait même eu des orphelinats où on aurait retrouvé plusieurs jeunes enfants Dutch. Et bon, ça met la puce à l'oreille. Peut-être que Milo serait originaire de la Pennsylvanie. Et là, certaines personnes ont enquêté, se sont rendu compte qu'il y a un Marriott sur la Highway 46 qui passe au travers de la Pennsylvanie. Donc, ce serait potentiellement un indice. Peut-être qu'ils ont fait leur party à ce Marriott-là. Par contre, selon certains, on se rend compte que les chambres, du moins, parce que évidemment Reddit, c'est merveilleux, les gens mènent l'enquête. Il y a quelqu'un qui a dit, ben moi, je suis déjà allé à ce Marriott-là, mais les chambres sont vraiment pas chères. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'un peu plus tard, dans le code source de Lake City Quiet Pills, ils vont poster les détails de la facture totale de ce party-là. Puis c'est là que ça marche peut-être moins avec le Marriott en Pennsylvanie. Seb, dans ce post-là qui date du 2 février, donc après la fête, environ 2 semaines après ce fameux party, on nous détaille, ce qui est très étrange, mais on nous détaille les coûts reliés au party. Donc si tu peux nous lister tout ça.
L'autre message qui a été découvert dans le code source de Lake City Quiet Pills date du 2 février 2010, donc quelques semaines après le party en tant que tel à l'hôtel. Et là, il y a un détail sur la facturation, c'est le party bills. Donc là, on a la chambre d'hôtel qui aurait coûté 48 341 $, la limousine qui aurait coûté 6 080 $.
Mais quand même.
L'autobus qui aurait coûté 569 $, le bar bill 18 890 $, ça boit des mercenaires.
Oui.
8 030 $ de nourriture, 8 300 $ de dancers, j'imagine c'est des strippers, donc des danseuses.
Oui.
Ensuite, bon, du pourboire à 850 $ et des dépenses diverses pour 2 840 $. Et le dernier item, c'est des med supplies, en fait des médicaments pour 180 $. Et entre parenthèses, il y a une référence à quelqu'un d'autre, à Fat Tommy.
Et à Stu.
Et à Stu, qui sont OK. Bon, c'est un peu particulier.
Sur la même ligne que les medical bills.
Oui, exact. C'est quand même bizarre. Et on a quand même le total qui est de 94 080 $. Donc, c'était tout qu'un party qui a coûté quand même assez cher, mais c'était pour leur bon vieil ami Milo.
On nous dit à la fin « You all did Dutch Milo proud. Thanks. » Donc, ça semble être tout un party. Mais quelle organisation publie les détails des factures de party, en fait?
Oh oui.
Je trouve ça un peu étrange de voir ça.
Ouais, surtout, même la fin, ça m'intrigue un peu. Tu sais, je comprends que faire un party pour quelqu'un qui est mort pour l'honorer, mais j'ai de la misère à saisir pourquoi qu'il serait fier de ce party-là. Je trouve ça un peu étrange. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un sous-texte parce que, ça a été quand même ébruité, les gens qui géraient le Lake City Quiet Pills ont quand même eu des comportements un peu différents dans l'intégration des messages dans le site quand ça s'est un peu ébruité sur Reddit. Et j'ai l'impression qu'ils utilisent un genre de pseudo-code, mais pourtant, il y a des chiffres, tu sais, assez précis. C'est ça qui est bizarre, mais est-ce qu'une limousine, c'est telle arme à feu? Est-ce que, ben bref.
Ouais. Est-ce que tout spécule? Ça, c'est un code? C'est une bonne question. Effectivement, là, la limo à 6000 $, ah oui. Mon Dieu, c'est sérieux. Ça m'est déjà arrivé de louer des limos, là, même dans des villes très, très dispendieuses. Puis, 6000 $, c'est vraiment beaucoup. Même le boss, même les medical supplies, je veux dire, 180 $, est-ce que c'est, je veux dire, sont allés chez Jean Coussu acheter des pansements puis des Advil, tu sais?
Ou des condoms pour les dancers.
Peut-être aussi. Donc, très étrange ce commentaire-là avec tous les détails du party. Un truc, en fait, on parlait de l'hôtel tout à l'heure, on parlait du Marriott. Certaines personnes ont fait des calculs, puis détail très intéressant, c'est que on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait, bon, un Marriott sur la Highway 46 qui pourrait faire référence au chiffre 46 qu'on retrouve dans le code source de Lake City Quiet Pills. Mais il y a aussi, en fait, un Marriott sur la 46e rue ouest à New York, et que ce Marriott-là est un peu plus fancy que celui qu'on retrouve en Pennsylvanie. On nous dit, les gens ont calculé que 38 chambres pour 3 nuits à 48 341 $, ça revient à environ 424 $ US par nuit. Et en regardant les prix actuels, je crois que les prix actuels du Marriott sont genre 431 $ par nuit. Donc, en faisant le calcul, il y a une étrange coïncidence ici, là. Est-ce que le 46, ça serait vraiment la 46e rue à New York? Peut-être, en fait, que ce party-là se serait déroulé à New York. Donc, encore une fois, une coïncidence qui soulève plusieurs mystères. Il s'agit du dernier commentaire, message qu'on va voir apparaître dans le code source de Lake City Quiet Pills. Après un certain temps, j'ai l'impression que les gens se sont rendus compte que l'histoire s'était ébruitée sur Reddit. Et par la suite, il va avoir encore des drôles de messages dans le code source, mais ça semble être encrypté. Ça semble être vraiment des longues séries de chiffres qui, c'est difficile de trouver une corrélation là-dedans. Je sais que plusieurs endroits sur Reddit où les gens ont discuté de ces codes-là, mais n'ont pas vraiment réussi à découvrir le fond de l'histoire.
Oui, parce que c'est quand même facile de pouvoir encrypter et décrypter un message. En fait, l'encryption-décryption, la manière que ça fonctionne, c'est que l'information, elle est encodée, mais sous un protocole et avec une clé particulière. Et si les deux personnes de chaque côté ont cette clé-là, il y a plein d'outils. Si vous, par exemple, voulez communiquer avec quelqu'un d'une manière encodée, vous pourriez utiliser chacun le même outil. Si vous savez quelle clé, ben c'est pas user friendly à la lecture, mais ce petit outil là va totalement le décrypter et le mm-hmm. remettre dans le bon ordre et avoir des phrases qui ont du sens et qui sont cohérentes. Donc je suis certain qu'ils ont utilisé cette technologie là d'encryption qui est quand même simple, c'est de l'encryption de messages.
Et là on se demande un peu d'où est-ce que ça peut venir, que peut être la signification de Lake City Quiet Pills. Il y a des gens qui se sont rendus compte que bon, il y a une ville en Iowa qui se nomme Lake City. Et on retrouve une usine, en fait, d'arsenal d'armes à feu. Donc, une usine dans cette région-là où on fabrique des munitions.
Pour l'armée en particulier.
Exactement. Drôle de lien, encore une fois. Donc, les Quiet Pills, ça pourrait être sous-entendu comme, en fait, des pilules qui te rendent silencieux. Donc, des genres de... Ça pourrait être interprété comme une métaphore pour des balles de fusil,
oui,
par exemple.
Exact. Et le quiet, ça serait pour la mort, en fait. Quand on est mort, on est silencieux. Donc, c'est un peu ce mélange-là de théories que je trouve quand même qui fait du sens.
Donc, on a fait le tour un peu de la chronologie des événements. Il n'y a pas énormément de traces. Hein. On parle de quelques commentaires retrouvés dans le code source de Lake City Quiet Pills. On parle surtout des fameuses offres d'emploi de mercenaires. Mais ces quelques commentaires-là ont suscité des milliers de discussions sur Reddit au cours des dernières années. On est 7 ans après, ou même 8 ans après le premier commentaire à cet effet-là, et le mystère demeure toujours. Donc, il y a quelques théories qui demeurent, qui soulèvent encore plus de questions, selon moi. Mais avant ça, je pense qu'il faut creuser un peu sur c'est qui Milo, c'est qui Religion of Peace, c'est qui cette personne-là. Est-ce qu'il nous ment potentiellement, ou est-ce que ça semble crédible, toute cette histoire-là?
Il y a plusieurs informations. Comme on vous le rappelle, en fait, Milo viendrait des Pays-Bas. Il a habité en Pennsylvanie, mais il ferait partie des immigrants des années 1900. Par contre, à travers l'analyse de ce qui est écrit sur Reddit, il y a des gens qui ont une expertise pour déterminer l'âge de quelqu'un selon les mots qu'il utilise lorsqu'il écrit. Et selon cette analyse-là, il y aurait entre 35 et 50 ans maximum. Donc, ils sont capables vraiment de faire des corrélations avec l'époque et tout ça. C'est quand même assez particulier. Est-ce qu'il nous ment sur son âge? Est-ce qu'il y avait un cancer, donc il est mort plus jeune que 79 ans? On le sait pas.
Est-ce que le fait d'avoir constamment des conversations sur Reddit avec des gens plus jeunes, je présume que c'est son cas, peut avoir une influence sur le lexique puis le langage que tu utilises? Peut-être aussi.
Je suis certain que oui.
Mais il semblerait qu'il y aurait une certaine...
Discordance.
Exactement.
Mais malgré ça, quand on calcule qu'il avait eu 14 ans quand il est allé à la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1944, mais on remonte, dans le fond, il serait né autour de 1930. Ce qui fait quand même du sens avec son âge, il est mort en 2009, donc à 79 ans.
On se rend compte que de ce côté-là, tout semble aligné, ça semble véridique, parce qu'on sait jamais, d'un poste à l'autre, il aurait pu facilement se tromper, mm-hmm. puis faire une erreur d'une année ou deux, mais encore là, ça se tient encore de ce côté-là. Une des théories qui demeure, qui est la principale théorie, en fait, c'est est-ce que Lake City Quiet Pills serait une agence de mercenaires, militaires, ou encore une agence de sécurité? Parce qu'on l'a vu dans l'histoire du monde, ces agences-là, ça existe. En fait, ici au Québec, on a Blue Moon, la fameuse...
Dirigée par Karine Vanasse.
Oui, exactement. La fameuse agence là, dont une série a été inspirée. Mais ça existe. En fait, on sait que Blue Moon est très inspiré de Blackwater, qui est une vraie agence qui existe. Dans le cas de Blackwater... C'est vraiment une agence américaine qui fait surtout des contrats pour le gouvernement. Et ces agences-là font de l'argent comme vous avez pas idée. Un contrat pour Blackwater, ça peut être 280 millions de dollars, par exemple, pour aller assurer Par exemple, la sécurité d'agents de la CIA au Moyen-Orient ou en Syrie ou des choses comme ça. Donc, ces agences-là vont faire des travaux comme ça. Une des tâches qu'ils ont eues, par exemple, si on remonte un peu dans le passé, c'est Blackwater a eu la tâche de protéger les locaux de la CIA lorsque c'était la chasse pour retrouver Ben Laden. Mm-hmm. Donc, ils avaient encore des grosses tâches. Leur expertise, ça va autant en combat en zone civile, jusqu'en infiltration, jusqu'à surveiller des femmes de diplomates qui croient qu'ils trompent leur mari. Donc, c'est une agence qui existe pour vrai. Parfois, on pense que c'est juste dans Homeland ou c'est juste dans les téléséries ou dans les films, ouais, comme tu dis, mais ça existe. Et puis, ces gens-là roulent sur l'or. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une demande pour ces gens-là? Moi, je pense qu'il y a une très grande demande parce qu'en situation actuelle, si tu as de l'expérience en service militaire, si tu as de l'expérience en sécurité, oui, on est en état de conflit perpétuel. Il y a des attentats un peu partout. Mm-hmm. Et puis, ces agences-là peuvent aider à faire des trucs que les gouvernements seraient pas tout à fait à l'aise de faire.
On a un témoignage d'un ancien assassin de la CIA que justement, il explique un peu pourquoi ça existe. C'est qu'il y a des choses au niveau légal, le système légal ne peut pas tout arranger. Donc, un peu comme tu l'expliquais, les gouvernements, ils ont quand même l'imputabilité d'amener la paix sociale, de s'assurer que tout roule comme il faut, si on veut. Donc, c'est pas étonnant qu'ils utilisent ce genre de service-là pour ça. Puis on a un peu justement le témoignage d'un gars de la CIA qui faisait ce métier-là.
Et étrangement, lorsqu'il y a eu cette discussion à propos d'un témoignage d'un assassin de la CIA qui se serait retrouvé en ligne, qui est-ce qui répond? Notre ami Religion of Peace, donc Milo, qui confirme en disant « Bien sûr, il y a des assassinats. » Il y a des trucs que le système légal ne peut pas fixer, évidemment. Là, je traduis là, tout en vous parlant, mais si je pense à n'importe quel nombre d'organisations criminelles, il y en a plusieurs qui pourraient bénéficier de Lake City Quiet Pills. Donc, il fait un lien directement
lui-même, là,
dans ce post-là à Lake City Quiet Pills en disant « ben il y a bien des organisations qui auraient besoin d'une balle silencieuse. »
Mais c'est peu de temps autour de sa mort, en plus, ce commentaire-là. C'est quand même étrange.
Ouais.
Peut-être qu'il sentait sa mort venir et qu'il s'est dit « on va y aller au grand jour. »
Mais tout ça, toutes ces spéculations d'agences militaires-là ou d'agences de sécurité-là, ça se tient pas jusqu'à ce qu'on... Si on peut pas lier ça à un véritable événement qui est arrivé. Mais ce qui est fascinant, encore une fois, avec Lake City Quiet Pills, c'est qu'on a un événement qui est arrivé, encore une fois. Seb, est-ce que tu veux nous en parler un peu? C'est l'assassinat de Mahmoud Al-Mabou, qui a été assassiné à Dubaï, en fait.
En janvier 2010, dans sa chambre d'hôtel à Dubaï, Mahmoud Al-Mabou, qui est un des cofondateurs du Hamas, a été retrouvé mort. Al-Mabou était quand même recherché par le gouvernement israélien pour avoir kidnappé et assassiné deux soldats israéliens en 89, en plus d'être accusé d'avoir acheté des armes en provenance de l'Iran. Il a été retrouvé justement dans sa chambre, il a été drogué, électrocuté, et ils l'ont fait suffoquer, là, donc ils ont dû l'étouffer pour le tuer.
Une belle mort.
Oui, très plaisante. Mais ça cadre quand même avec nos mercenaires. C'est un peu, du moins c'est une mort un peu, moi je pourrais dire, non éthique.
Mm-hmm. Et là, t'as mentionné janvier 2010, et si on va un peu plus creux dans l'analyse de ce timing-là, la mort de Al-Mabou aurait eu lieu le 19 janvier 2010. Et qu'est-ce qui est arrivé le 19 janvier 2010?
Ben, c'était le party, en fait, de nos amis mercenaires, parce que le message qui préparait les gens pour aller au party datait du 18 janvier, donc un peu la veille, il les préparait à se rendre là. Si on fait un plus un, on s'entend que ça coïncide et ça concorde d'une manière un peu plus exacte.
Est-ce que ce party-là serait en fait une opération de Lake City Quiet Pills déguisée, encodée sous ces termes-là? Est-ce qu'en fait, c'était le début de cette opération-là? C'est une très bonne question. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y avait 38 chambres de réservées à l'hôtel et il semblerait avoir plus d'une trentaine de personnes impliquées dans le meurtre de Al-Mabou. Les autorités israéliennes ont commencé à enquêter là-dessus et puis ils ont réussi à trouver plusieurs suspects là-dessus. Puis encore un détail troublant, c'est que 17 des suspects dans le meurtre de cette de notre ami à Dubaï ont utilisé des cartes de crédit Mastercard, des un peu des fausses cartes si on veut, qui ont été issues par la MetaBank de Storm Lake, Iowa. Et en fait, moi j'ai regardé sur Google Maps, il y a lorsqu'on parle de Storm Lake, Iowa, il y a une autre ville tout près qui s'appelle Lake City en Iowa qui est à 50 minutes de route. Donc coudon, est-ce que tous les indices nous pointent vers Lake City Quiet Pills? C'est vraiment intriguant.
Oui, parce qu'on s'entend, là, on commence vraiment à additionner les facteurs de plus en plus qui nous permettent vraiment d'arriver à une certaine conclusion.
Une autre théorie qui est soulevée dans le cas de Lake City Quiet Pills, c'est est-ce que tout ça, ce serait une arnaque marketing ou encore un ARG, donc un Alternate Reality Game? Seb, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Un alternate reality game, en fait, c'est un jeu de réalité alternée ou de réalité intégrée. C'est un récit interactif, en fait, qu'on met en ligne, mais qui mélange le monde réel comme une vraie plateforme. Puis il y a une certaine narration là, qui se fait pour à travers différents médiums pour transmettre l'histoire. Et un peu comme les livres dont vous êtes le héros, ben, l'histoire va changer selon les auteurs du jeu, mm-hmm. et même les personnages peuvent amener à changer un peu l'histoire. Et ça pourrait faire du sens parce qu'il y a certains ARG qui utilisent un peu ce mode-là d'intégrer de l'information dans des sites web qui sont cachés. C'est une théorie intéressante, mais tout de même.
Si c'est justement un arnaque marketing, parce que généralement les ARG c'est pour au final vendre un produit,
oui, exact.
Ou mousser les ventes d'un film ou quelque chose comme ça. On l'avait vu dans le cas du jeu vidéo Halo 2 à une certaine époque. Il y avait eu souvent ça va mélanger des puzzles sur le web à, par exemple des appels téléphoniques dans la vraie vie, et on va demander aux gens de se déplacer vers un lieu de rencontre, ou ça va mélanger plusieurs puzzles autant dans le monde virtuel que dans la vie réelle. C'est un peu le principe du ARG. On l'avait vu aussi dans le cas de Lost, série Lost. Il y avait eu un exemple là-dessus. Et souvent, justement, c'est un coup de marketing fait pour vendre quelque chose. Mm-hmm. Mais dans le cas de Lake City Quiet Pills, il n'y a pas vraiment rien,
rien à vendre.
Exactement. Puis un autre facteur qui va un peu contre la théorie du ARG ou du coup marketing, si on veut, c'est qu'en creusant, lorsqu'on fait des recherches sur 2Six, qui a annoncé la mort de Milo plus tôt, on se rend compte que, et en googlant là, très simplement, sans faire trop d'enquête, on se rend compte qu'il y a un utilisateur sur le site web de FARC.com, qui est un genre de site un peu là, de nouvelles douteuses ou de partage de trucs. Il y a un utilisateur dont le nom est Angel26. Dans sa signature de forum, c'est un peu inquiétant. Il explique que... en fait, sa signature, c'est « Dispensing Lake City Quiet Pills to Lousy Bastards in Need of Permanent Rest Since 1968 ». Et ça a été posté sur FARC en 2001. Donc, si c'est un coup de marketing, ça fait depuis 2001 que ça dure, tout ça, les Lake City Quiet Pills, finalement. Et malgré tout, on est 7-8 ans après la découverte de ce mystère-là, il y a toujours rien de révélé. Donc, c'est plutôt long là, pour un ARG ou pour un hoax marketing.
Non, exact. Puis Lake City Quiet Pills a été créé en 2008. Donc, même à l'origine, si on remonte de 2001 à 2008, ces gens-là devaient même utiliser une autre méthode de communication. Puis c'était tout de même existant. Il n'existait pas avant 2008.
Exactement. Une autre théorie, c'est que Lake City Quiet Pills pourrait être un certain relais d'informations. C'est-à-dire que certains ont sorti comme théorie que les informations postées dans le code source de Lake City Quiet Pills viennent d'ailleurs. Ils n'étaient pas originalement postés dans le code source. Est-ce qu'ils étaient postés ailleurs, et est-ce que Lake City Quiet Pills serait une façon de transmettre ces infos-là à, par exemple, des agences gouvernementales ou la CIA ou à d'autres gens? C'est aussi une théorie, comme quoi ça serait plus un relais d'information.
parce qu'il doit en avoir plusieurs, là. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, étant donné qu'ils cherchent, eux cherchent de la main-d'œuvre, mais ça se peut qu'ils soient un petit groupe de 7, 8, 10 personnes, qu'eux ont accès à un réseau pour trouver ces gens-là. Ça ferait quand même du sens. Puis j'ai l'impression que, justement, c'est peut-être un relais parmi tant d'autres, là. Il doit en avoir à différentes positions, un peu même quand on voyait dans une annonce, il y a des gens qui s'occupent juste de certains secteurs sur la planète.
Mm-hmm.
Donc, je serais pas surpris aussi que ça serait ce genre de qu'il aurait utilisé comme un relais, justement.
Que dire de tout ça, en fait? C'est beaucoup d'informations, c'est toujours non résolu, l'enquête est encore en cours, on sent que l'enquête, en fait, c'est pas une enquête officielle, c'est une enquête vraiment qui se déroule auprès des internautes, même si à certains moments, j'ai l'impression que peut-être ça nécessiterait une enquête officielle,
oui, vrai, ouais.
Parce qu'on parle de potentiels même tueurs à gages ou mercenaires, donc c'est quand même délicat comme sujet. Toi, Seb, est-ce que t'as une théorie personnelle là-dessus?
Ben moi, je crois que c'est vrai. Je crois pas que c'est un hoax. Je crois pas que c'est un jeu. Je trouve que tous les éléments concordent. Je suis certain qu'à l'époque, je trouve même que c'est une bonne idée de passer par des commentaires de code source pour communiquer ce genre d'informations-là d'une manière simple et efficace pour des gens qui sont pas nécessairement techies. On s'entend, là, dans un des épisodes, on vous parlait de Slavik qui avait créé un réseau de messagerie instantanée, mm-hmm. Jabber, sécurisé. C'est pas à la portée de tout le monde de créer ce genre de réseau-là. Ça a l'air d'être des gens quand même assez âgés qui utilisent pas beaucoup la technologie. Donc, intégrer des commandes dans un code source, c'est très, très, très simple. Et je trouve que tout concorde pour que ça fasse du sens. Le fait qu'il a arrêté d'avoir des publications une fois que ça a été un peu plus ébruité, je suis certain que c'est vrai, que tout ça est un peu vrai. Relié à la mort de Mahmoud, peut-être pas, mais c'est vrai que les dates concordent. Là, je veux dire, c'est pas deux jours de différence, là, c'est la même année, la même date. C'est tout de même étrange. Là. On peut quand même faire certaines corrélations qui amènent à ça. Là. Et toi, Émile, c'est quoi ta théorie sur le sujet?
Ben, ça change d'un jour à l'autre, je devrais dire. Mais un peu comme toi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je crois pas vraiment aux hoax ou aux coups de marketing, comme je l'ai dit plus tôt. Mais je trouve que ça demeure quand même amateur, j'ai l'impression, comme organisation. C'est-à-dire que c'est sûr que des gens de Blackwater ou des autres agences professionnelles, ils passent pas par des codes sources de sites web pour communiquer leurs trucs. J'ai l'impression que c'est peut-être un groupe d'ex-mercenaires, de vieux de la vieille, ou je sais pas, de sous-groupes qui peut-être font des contrats pour des plus grandes organisations. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une véritable demande pour des gens qui ont cette expertise-là. Ça m'inquiète pas. J'ai l'impression qu'il y a énormément de budget qui est investi là-dedans. Les annonces postées sur League City Quiet Pills dans le code source, c'est troublant. Ça dénote une certaine connaissance du monde militaire, puis ça semble être crédible d'une certaine façon. Encore une fois, la concordance avec le meurtre à Dubaï, les cartes de crédit qui viennent de potentiellement la même région, c'est vraiment étrange. Puis je vois pas l'intérêt de divulguer ça au public dans l'unique but de stimuler l'enquête collective, si on veut. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui sont tombés sur de l'information compromettante qui l'ont dévoilée. J'ai l'impression que c'était pas supposé arriver, tout ça.
Non, exactement. Puis c'est pour ça que c'est plus là, ça existe plus. Je suis certain que le FBI, la CIA ont dû être mis au courant. Ils ont tout intérêt à ce que ça ne sorte pas non plus, parce qu'on s'entend, là, c'est quand même une certaine stratégie militaire, si on veut. Et puis j'ai même l'impression, en fait, qu'ils sont engagés au-delà des États-Unis. Je suis pas sûr que c'est juste les Américains qui les engagent, là. Puis tu sais, c'est particulier comme métier, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Faut venir de la guerre, faut venir de l'armée. C'était vraiment des vieux bonhommes, tu sais, qui pouvaient faire ça. Donc je trouve vraiment que ça ça cadre, même si c'est des techniques un peu néophytes et simples et basiques, là.
Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Dites-nous-le. On veut savoir quelles sont vos théories sur Lake City Quiet Pills. Si vous n'êtes pas au courant, si vous savez pas par où commencer, vous pouvez aller sur notre site web. On va lier du moins le premier sujet là où tout a commencé. Puis on va vous laisser vous perdre dans toutes ces discussions-là parce que c'est très compliqué. Il y a des bons endroits pour aller, entre autres le Reddit Bureau of Investigation qui est sur Reddit, le RBI, si on veut, qui est plein de gens comme nous qui aiment les enquêtes de ce genre-là. Donc, vous allez trouver plein d'infos là-dessus. Il y a un subreddit aussi sur Lake City Quiet Pills qui a été mis en place par Jason Lee, qui est un utilisateur qui a mis énormément de temps dans l'enquête, sur cette enquête-là. Donc, je le salue.
Il a bien condensé l'information, je trouve, de base. Là, il a bien expliqué le cas aussi. Là, vous allez le voir rapidement là, dans les premiers les premières publications qu'il a fait sur ce canal-là.
Exactement. Très pertinent. Donc, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Puis dites-nous-le sur Facebook, Distorsion Podcast, dites-nous-le sur Twitter au Distorsion Pod et évidemment sur notre site web distorsionpodcast.com. On veut connaître ce que vous pensez de cette histoire intrigante.
Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ce soir, Émile?
Surveillez toujours le code source de distorsionpodcast.com pour de plus amples révélations.
Oh!